www.radiotopaz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour.
Vous êtes à la tête du festival de Chaillol qui va souffler ses 16 bougies cette année. Festival exigeant, comme on dit, on utilise des mots comme ça parfois un peu marketing, exigeant. Mais franchement, parce que c'est vrai que c'est un festival qui propose une politique éditoriale qu'on peut qualifier de pointue, mais plutôt, je dirais, plutôt d'exigeante. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent des musiciens parfois se plaignent de dire que les festivals ont toujours tendance à aller dans la facilité et qu'on se rend compte parfois que le public, au contraire, peut aimer l'exigence et des choses qui ne sont peut-être parfois pas connues. Alors c'est vrai que ce festival qui donc souffle ses 16 bougies cette année se déroulera donc du 19 juillet au 12 août. Il est sous-titré « Entre Alpes et Provence, une itinérance musicale dans les territoires de la création ». Alors c'est vrai qu'on entend aussi bien de la musique de chambre, enfin de la musique classique, de la musique contemporaine, de la musique dite du monde. Comment s'est passé d'ailleurs, avant peut-être d'évoquer cette 16e édition, quel bilan vous avez tiré de la précédente, la 15e ?
Bon, ça a été une très belle fête, on a eu une très belle fréquentation, beaucoup de rencontres très fortes, des projets qu'on avait accompagnés dans leur formulation, dans leur élaboration tout au long de l'année. Parce qu'en fait, c'est une saison qui culmine dans l'été, mais qui commence en janvier. On a toute une action, à raison de 3-4 concerts par mois, tous les mois, tout au long de l'année dans ce territoire. Et ensuite, on retrouve les artistes qui ont posé des gestes comme ça, souvent très forts, dans des petites communes entre janvier et juin. On les retrouve dans l'édition du festival. Donc on n'était pas surpris de la qualité de ce qu'on a proposé, puisqu'on a eu le temps de l'accompagner. Mais par contre, le public estival est un public plus mélangé, fait de gens qui sont à la fois des résidents, des gens qui sont natifs de cette région des Alpes, et en même temps de touristes, évidemment. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un festival, c'est pas un festival d'été, c'est un festival l'été. Ce qui est, la notion de festival d'été est un petit peu, voilà, on est là pour comment dire, accompagner le touriste en fin de journée, une fois qu'il a fait sa balade. C'est pas du tout le projet du festival de Chaillol, même si on est bien conscient de contribuer en quelque sorte à une animation culturelle du territoire. Il y a vraiment un projet, comme vous le disiez à l'heure, éditorial, enfin une politique de programmation, moi je dis une écriture même, et des choses qui sont revendiquées dans le champ de la création de manière extrêmement claire, militante, argumentée. Ouais.
Et ce qui est d'autant plus intéressant que au-delà de ça, ça se situe effectivement dans un territoire qui, justement, culturellement, ne croule pas sous l'offre, comme on a tendance à dire. Donc non seulement, vous proposez quelque chose d'exigeant, mais dans une région, effectivement, où on pourrait penser que ce type de programmation pourrait attirer personne, et ce qui n'est pas le cas. En fait.
Non, c'est très plein, les gens suivent, sont très, très fidèles à la programmation, dont ils disent souvent qu'elle permet de découvrir des choses, des chemins de traverse, on a l'habitude de dire. Mais les gens nous disent souvent, parfois on ne sait pas ce qu'on va entendre, mais on sait que ce sera bien. Voilà. Et donc on a habitué les gens à effectivement une certaine exigence dans ce qu'on propose, mais en même temps sur une base de confiance dans la relation avec eux qui fait que d'une certaine manière ils se disent bon ben voilà, c'est une invitation à la découverte, clairement. Et il faut toujours associer la notion d'exigence, à mon avis, avec une dimension de générosité et de respect du public, de son intelligence, de sa capacité à découvrir des choses qu'il ne connaît pas, de son envie aussi d'aller vers des choses qui sont inouïes, inattendues. Et alors de ce fait, peut-être des territoires un peu plus un peu plus reculés, un peu plus en retrait, permettent plus facilement ça. Parce que justement, l'événement fait événement, en quelque sorte. Quand vous programmez, je ne sais pas, on va accueillir la semaine prochaine le Quatuor Bella dans une création avec un compositeur palestinien qui a reçu une commande du festival. clairement, c'est un événement bien au-delà du petit cercle des mélomanes, c'est un événement pour le territoire lui-même. Donc je pense que quelque part, il y a une écoute qui est un peu différente du fait que la page est un peu plus silencieuse. Voilà.
Une écoute, une écriture, vous avez dit, une histoire, et à tel point cette histoire qu'elle a d'ailleurs été racontée dans un livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Chaillol, portrait au pluriel d'un festival », et sous-titré « 15 années d'action culturelle en territoire rural de montagne ». C'était quoi l'idée à la base? Pourquoi publier ce livre?
On avait envie, après 15 ans d'action, vraiment, de présence, encore une fois, forte, quotidienne presque, de faire un peu un point là-dessus, en se disant finalement ça correspond à quoi cette énergie déployée et reçue aussi, parce qu'on n'est pas du tout dans une, vous l'avez entendu ça, on n'est pas du tout dans une position, disons, d'évangéliste. Enfin, on vient, on apporte de la culture dans un territoire où il n'y en a pas, c'est pas du tout le cas. Dans ces territoires-là, il y a de la culture, il se trouve que c'est pas tout à fait celle que nous on apporte, mais en retour, nous aussi, on est transformé, on est un peu modelé par ce qu'on reçoit, la qualité des paysages, l'histoire qu'il y a des gens, etc. Bon. Donc à un certain moment, on s'est dit comment on peut témoigner de cette rencontre-là entre une offre culturelle qui n'était pas dans ce territoire-là et un territoire avec toutes ses qualités, ses ressources, ses hommes, ses histoires, ses mémoires, etc. Et on s'est associé avec le Centre de l'oralité alpine, qui est un centre de ressources et qui fait de la collecte de mémoires sur des sujets très très divers, hein, pas toujours culturels d'ailleurs. Et on a fait un travail autour de 15 personnalités. Alors ça va du président du conseil général en passant par le bénévole, le directeur du Fonds pour la création musicale, François Chenet à Paris, un musicien, voilà. Et on leur a demandé de faire le récit pour eux, dans leur vie, de ce que représentait le festival. Il y a eu un travail d'écriture après, enfin voilà, c'était vraiment un ouvrage qui n'est pas du tout un livre anniversaire, mais qui est vraiment un témoignage, je pense, qui pose des vraies questions sur finalement comment on relie une pratique artistique, un geste de création avec la matière même de la vie des gens. Enfin, voilà, c'est en quelque sorte, c'est réarticuler l'esthétique et le politique. Enfin, c'est clairement dire la musique n'est pas un geste anodin, inoffensif ou même insignifiant. C'est quelque chose qui accompagne profondément la construction d'un individu dans sa propre évolution. Donc traitons-le vraiment, ce sujet-là.
Thank you.
chaque nouvelle édition, j'imagine, c'est un peu un nouveau chapitre dans le grand livre Chaïol. Comment on commence justement là? On pose sa plume sur la première page du chapitre 16, donc. comment ça s'est passé au début? Vous aviez des idées? On part avec des idées thématiques? On part avec des noms plutôt? Comment ça se passe?
On est plutôt sur des fidélités d'abord à une certaine... positionnement par rapport à la création, des choses qu'on veut défendre, donc une certaine matrice en quelque sorte, voilà, de quoi en effet cette exigence, cette volonté que cette exigence ne soit pas un isolement, mais qu'elle puisse être partagée, puisque la musique contemporaine ou les musiques contemporaines concernent tout le monde puisqu'elles s'adressent à tous, donc il faut travailler sur les conditions dans lesquelles elle peut être reçue, voilà. Donc il y avait ce fond de sauce en quelque sorte permanent, et après il y a des fidélités avec des gens, des artistes avec qui on décide de travailler 2-3 ans, de tisser des choses, d'autres qui arrivent, voilà. Donc ça se fait, c'est pas du tout une thématique en disant cette année on va faire musique russe, l'année prochaine on fera musique je sais pas quoi, enfin c'est pas du tout notre manière de penser, c'est plutôt la création comme éthique de la relation, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire proposer un geste de création, y compris quand on présente un quatuor de Beethoven, hein, on peut revoir cette dimension du patrimoine, du répertoire, avec une actualité, avec une force. Il suffit de travailler un peu sur les conditions dans lesquelles cette musique était mise. Voilà. Donc non, il n'y a pas de thématique, il y a simplement l'envie d'approfondir à la fois une relation avec ce territoire qui est absolument sublime et riche, de, encore une fois, de mémoire, d'énormément de choses à découvrir et à apprendre. Et d'un autre côté, d'approfondir cette notion de la création qu'on voudrait plus large que la simple question de la création savante européenne occidentale. Voilà. La question de l'oralité, les pratiques qui viennent de l'improvisation, qui sont vraiment des gestes qui peuvent être aussi des gestes de création au même titre qu'un quatuor à cordes, que par ailleurs nous défendons aussi, enfin ces formes-là. Donc voilà, un compositeur invité, François Meymoun, dont on peut dire qu'il appartient vraiment à cette famille de l'écriture savante européenne, mais aussi Ahmad Al-Khatib, palestinien, oudiste reconnu, qui a écrit en ce moment, et une œuvre qui va être créée là, dans 2 semaines, pour nos derniers concerts de l'année, une œuvre pour le quatuor Bella, oud et percussions orientales. Donc on est vraiment dans ce travail de dire la création, c'est tout le temps partout. C'est pas une seule histoire monophonique, on va dire. C'est une grande aventure chorale qui se trouve aussi bien en Europe que dans des pays non européens, mais au cœur de l'Europe, pas forcément uniquement au bout du crayon, mais parfois dans le corps, sur de l'improvisation, dans l'instant, dans les musiques du jazz, etc.
Comment tous ces créateurs prennent-ils en compte le fait justement d'avoir un public qu'on pourrait dire atypique, notamment sur la création contemporaine, effectivement. Donc qui parfois, comme vous le dites, parfois ça va être peut-être leurs quelques concerts de l'année,
ouais,
ça sera ceux de Chaïol, peut-être
ouais,
même
ouais.
les seuls, ça
ouais,
se trouve.
C'est possible.
Ouais. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est important pour eux? De quelle manière ça les touche?
Mais je crois pas que ça soit un public atypique, pour le coup. Je crois que c'est un public qui, à un certain moment, accepte de se confronter à quelque chose, au sens de recevoir quelque chose qui est inattendu, enfin, qui n'est pas... Alors souvent il y a du répertoire, on n'est pas sourd aux beautés et aux richesses du répertoire, mais le public se constitue, c'est une petite communauté éphémère, et il se passe des choses d'une intensité, il y a une écoute qui est d'une ferveur, enfin voilà, on joue dans des petits lieux, des petites églises, des petites chapelles, qui conditionnent aussi ce type d'écoute, parce que les musiciens sont très très près, on est uniquement en acoustique, il y a ensuite ou avant des rencontres, on peut partager un verre, enfin... Le territoire apporte aussi sa disponibilité, sa richesse, enfin produit quelque chose. On n'a pas besoin de sortir du métro pour courir ensuite après une journée de travail, acheter son billet. Non, ça se passe dans un temps qui est très différent et dans un territoire qui l'est aussi. Donc
est-ce qu'à posteriori, justement, quand vous discutez avec les musiciens, les compositeurs, les créateurs, justement, ils vous livrent des témoignages de par justement l'originalité de ce que vous venez de décrire de
ouais, message. Ouais, absolument, ils sont souvent extrêmement... Quand c'est la première fois, ils sont parfois jusqu'à être extrêmement surpris, choqués du silence presque religieux qu'il peut y avoir dans avec le sentiment qu'ils n'ont jamais été aussi bien écoutés. Que dans cette petite église du Champsaur, petite vallée comme ça, parce qu'elle fait 60 places, parce qu'on est tous très très près, parce que ce solo de saxophone de Joël Versavo, où on entend son souffle, où il nous dit quelques mots sur son histoire. On est dans un rapport globalement un peu différent d'un rapport frontal scène-salle dans une salle de concert. Et de ce fait, moi j'essaie d'induire chez les musiciens le fait que la relation qu'ils instruisent avec le public peut être aussi un peu différente. On peut s'autoriser, non pas à être plus relâché, parce qu'il y a une très grande exigence dans la réalisation, mais à dire deux mots, à essayer d'expliquer ou de donner quelques éléments de lecture sur pourquoi cette œuvre a été demandée à tel compositeur par l'interprète qui est devant vous. Mmh. Et ça, le public, après, vous êtes extrêmement reconnaissant de ça et il le fait sentir. Et alors, les gens qui sont déjà venus et qui reviennent de 3 ans, eux savent et du coup proposent des choses dont ils savent qu'ici, elles vont résonner particulièrement. Et souvent, on arrive à faire aboutir des projets qui, par ailleurs, ne seront pas donnés ou en tout cas ne seraient pas nés ailleurs. Et ça, c'est pour moi une des grandes valeurs du festival. Ouais.
Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas juste l'acte musical, la création, et puis c'est tout, puisque comme vous l'avez dit, c'est un festival qui finalement commence un peu en début d'année. Il y a aussi des ateliers, il y a des rencontres. Tout ce qu'il y a autour, j'allais dire, de la création elle-même, c'est même vital ou essentiel pour le festival.
Moi, je pense que, enfin, en tout cas, on peut faire autrement, hein, c'est certain, mais je pense que si on ne cherche pas à réarticuler la création avec les publics, en leur donnant une dimension, donnant à cette relation une dimension très active, c'est pas simplement, voilà, on a passé commande, l'institution soutient, ensuite le créateur écrit, l'interprète joue, et puis le public vient constater, bon.
Et après, au revoir.
Après, au revoir, et puis souvent, l'œuvre n'est pas rejouée. Donc, la question, c'est comment on fait de la création le cœur d'un dispositif, de telle sorte qu'à un certain moment, les gens se disent, mais finalement, je ne pensais avoir quelques réticences, voire du ressentiment par rapport à la musique dite contemporaine. Peut-être que dans cette vision d'une musique où elles sont toutes d'une certaine manière contemporaines, si on ne renonce pas à l'exigence, bien sûr, qui fonde un acte artistique, finalement, je trouve ici des choses qui m'ont touché, qui m'ont... Et on a, nous, des retours très très forts de musiciens, de musiciens bien sûr, mais de public, qui nous disent, on n'avait jamais entendu, on a fait une œuvre, par exemple, magnifique pour piano et dispositif électroacoustique d'Ivan Solano, une œuvre qui dure 10 minutes. Beaucoup de gens n'avaient jamais entendu, ils ne savaient pas que ça se pouvait, qu'un piano soit accompagné, non pas d'un orchestre, d'un trio à cordes, mais d'un dispositif électroacoustique. Et les gens sont venus dire, on a découvert que ça existait, c'est extraordinaire, où est-ce qu'on peut trouver, voilà. Il y a un appétit qui se met en place, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'après on a des mélomanes, comme dans tous les festivals, des gens qui suivent vraiment une programmation en étant très informés, mais je pense plus particulièrement à ceux qui viennent pour la première fois et qui deviennent du public, vraiment, voilà. Et ça, je pense qu'on fait œuvre utile, vraiment, au moment où on s'interroge sur le renouvellement des publics, etc. Je pense qu'on doit absolument soutenir ces points de vue sur la relation au public. C'est très important.
Alors, Ivan Solano, vous l'avez cité. Il y a aussi Laurent Naouri, Emmanuel Rochman pour un hommage à Billy Evans.
Très beau.
Parlez-nous un peu justement des quelques, si effectivement, j'imagine que vous auriez envie de parler de chacun de ces concerts, c'est normal.
Chacun, c'est comme une carte de resto. On a cuisiné tous ensemble, on a fait le marché, on est allé.
Vous l'auriez parlé de tous les plats. Mais quels seraient les quelques temps forts de cette cuvée 2012?
Des petites choses un peu emblématiques. Effectivement, on ouvre le festival avec ce duo Laurent Naouri, Emmanuel Rochman, qui est un peu atypique. Dans le sens où c'est un récital de chant, en même temps on aborde le répertoire de Bill Evans. C'est une histoire presque intime qui est racontée par ces deux musiciens qui se connaissent depuis très longtemps. Et c'était pour nous une manière de dire, même un grand chanteur, un grand baryton, plutôt habitué aux scènes d'opéra, peut aussi déplacer son propre cadre. Et ça, c'est intéressant pour nous. On est dans des formes un peu floues. C'est très intéressant. Il y a Ivan Solano, effectivement, pour une carte blanche... récital de clarinette. On accueille un ensemble de musique contemporaine, C'est Barré, qui est un très très bel ensemble naissant, mais déjà bien confirmé, de Marseille, avec lequel on fait un programme assez ambitieux avec George Crumb, Sing and Songs, et la pièce de Oana, et une création de François Maimoun, compositeur donc invité cette année. Alfonso Pacine, argentin de Paris, qui travaille autour des mémoires, pour le coup, argentine, mais aussi ardéchoise, avec un mixage extrêmement intéressant. Cette création, Jadayel, donc pour Quatuor Bella ou des percussions d'Ahmad Al-Khatib. Le très beau récital de Joël Versavo, qui fait un travail sur le souffle continu, cet exercice respiratoire extrêmement étonnant, et avec un mélange de répertoires très contemporains, des compositeurs d'aujourd'hui, plutôt méditerranéens, avec Zad Moultaka, Georges Boeuf, etc. Et toute une relecture des pièces pour violoncelle et violon de Bach, c'est absolument remarquable. Voilà le très beau récital qui est aussi la sortie de son disque de Victor Vigena, bandoneoniste argentin installé en France aussi, qui est vraiment quelqu'un qui pense le rapport au tango de manière extrêmement intéressante, qui revient aussi avec son Quinteto del Después, ensemble qui a une belle renommée. François Rosset qui fait une carte blanche presque habituelle, mais qui est toujours inattendue, totalement imprévisible, et qui a invité cette fois le tambouriniste Carlo Rizzo. Ça va être un moment aussi, je pense, assez fort. Et le Quatuor Ardeo qui termine cette saison avec à la fois un programme en quatuor à cordes et la clôture du festival avec le Sextuor de Brahms et la reprise du Quatuor de François Maïmoun, ainsi que sa transcription de la toccata pour clavecin de Bach pour quatuor à cordes. Voilà, donc c'est une chose très, vous voyez, très chorale, très plurielle.
Comment le festival vit la période actuelle, j'allais dire plus sous un angle économique, d'un côté crise du disque qui se poursuit, parfois on sait que les subventions, les aides d'État ont tendance à diminuer, le festival quand même arrive à sa 16e édition, chaque année on doit reprendre son bâton de pèlerin, c'est, on remet tout sur la table, comment ça fonctionne, et en même temps on doit évidemment proposer... un menu, pour reprendre votre expression de tout à l'heure.
C'est un vaste sujet. Hein. C'est clair que chaque année est une nouvelle année. Moi, chaque fois, je dis à l'équipe, on ajoute une édition et on sait très bien, on verra si on peut rajouter encore une troisième, une quatrième, cette année une 16e, peut-être une 17e. Donc rien n'est jamais acquis. Je pense qu'il faut un travail constant et de grande qualité sur un territoire et vis-à-vis de la création
ça,
des
ça
artistes.
Ça pèse, ça, sur la construction de chaque nouvelle
Ça pèse dans le sens, c'est une...
On a l'impression d'avoir quoi, une épée de Damoclès
non,
à chaque
Pas vraiment une épée de Damoclès, mais c'est un coup psychique. Je veux dire par là que vous avez une équipe qui est salariée, des responsabilités vis-à-vis d'un territoire, vis-à-vis d'un public. C'est pas, on a perdu la légèreté, si vous voulez, l'insouciance plutôt. Je pense qu'il y a le même esprit que les premières années. On était tous bénévoles, intermittents, sortant du conservatoire, et c'était génial. Un peu chambre d'enfant où on construit avec nos Legos, puis on fait le lendemain autre chose. Enfin voilà. On a perdu un peu cette insouciance-là, parce qu'on est plus dans le monde, on est plus conscient des réalités politiques, économiques. Et puis je pense que c'est très bien. On est plus militant, on a plus d'acuité sur l'analyse des choses. Mais on n'a pas perdu cet esprit-là, mais on est quand même plus... voilà. Et puis les choses bougent énormément en ce moment. Il y a effectivement la crise du disque qui a un impact très fort sur la capacité des sociétés civiles, notamment, ça tout le monde le sait maintenant, à libérer des budgets pour l'action culturelle. Ça, c'est vraiment des choses qui sont... Voilà, extrêmement. Enfin, quand nous on surveille, on est très soutenu. Enfin, au sens le projet est compris. Enfin, voilà, il y a une antériorité qui fait que voilà ça. Après, sur la question des collectivités territoriales, c'est-à-dire la région, le département, l'État, il y a des glissements de terrain, des mouvements tectoniques très très forts. Là, il y a une alternance qui va être active prochainement. Des choses se redessinent, peut-être dans un sens qui va être favorable à la question culturelle. Je pense qu'il faut rester vigilant sur le fait que c'est le lien avec les territoires, c'est-à-dire installer des équipes. Alors, je milite un peu pour ma crèmerie, mais il faut installer et permettre à des équipes de retisser un lien avec des territoires, avec des populations. Et donc, il faut installer des petites équipes aussi. Il faut soutenir ces petits lieux qui sont très nombreux et pas simplement, ce qui est tout aussi important, l'institution, c'est-à-dire la grande institution musicale et culturelle. Donc, voilà, la réforme des collectivités qui arrive là pour 2014 va avoir un impact sur les financements dits croisés. Donc, tout ça, et chaque chose que je cite là est un chapitre à déployer en entier. Mais donc, c'est un travail aussi d'analyse politique. Mais c'est ma conviction que la culture ne peut pas être autre chose que extrêmement articulée avec la dimension politique au sens du politique, hein, c'est-à-dire l'engagement dans une cité. Et donc je pense qu'il faut retricoter des choses de manière extrêmement forte avec il y a quasiment une nouvelle, comment dire, un nouveau contrat social entre les artistes, la création, la culture et la nation, l'État, enfin les collectivités, et puis ceux qui en ont la gestion au quotidien. On ne pourra pas se satisfaire de dire, ben voilà, on a sanctuarisé le budget de la culture, ce qui est déjà en soi pas si mal, mais il faut redéfinir, il y a une matrice qu'il faut repenser, c'est-à-dire on ne peut pas se satisfaire dans un pays où il y a des gens qui sont en dessous du revenu minimum, ces gens-là resteront à tout jamais non publics, ce n'est pas possible. Il faut travailler aussi avec ces publics-là, et probablement même prioritairement avec ces publics qui sont très très loin d'avoir la disponibilité et l'appétit pour ça. Donc c'est un combat quand même. Hein. Moi, je définis ça comme un engagement de nature politique, militant, mais et tout aussi exigeant sur ce front-là que sur le plan de l'exigence artistique, du discours, enfin, de la relation avec les compositeurs, avec les artistes. Enfin, je veux dire, on n'instrumentalise pas la création au titre du développement des territoires. Mais clairement, ça marche sur ses deux pieds, un événement. Ça ne peut pas être simplement un geste esthétique posé dans la nature.
Dans cette réflexion, si on se rend compte qu'on perd un peu prise au niveau du public, est-ce qu'il y a la volonté d'aller vers du mécénat, vers le privé, etc. Comment ça fonctionne ?
Je ne pense pas qu'il faille opposer le public et le privé. Il y a tout un débat actuellement sur la question de la petite note qui se prépare à Bercy pour descendre un peu la défiscalisation du mécénat. Bon, moi, je crois que nous, on a un peu de mécénat. C'est des entreprises très locales, toutes petites. Hein. C'est la boulangerie du coin, les tourtons du Champsaur qui nous donnent 1500 euros, qui est un geste très fort pour eux, par exemple. Ou une agence immobilière qui nous aide en mettant à disposition tous les appartements pour les artistes. C'est des petites choses, le mécénat, parfois. C'est pas forcément des grandes fondations. Ouais. Mais c'est extrêmement important pour deux raisons. D'abord, parce que ça correspond à quelque chose dans le budget. Et d'autre part, parce que c'est un lien avec le territoire qui fait que vous touchez un chef d'entreprise qui a des salariés, des employés. Et donc, c'est un autre lien aussi, d'un point de vue vraiment médiation avec les publics. Donc, je pense pas qu'il faille opposer. Alors, il faut pas que le privé se substitue. Il faut vraiment surveiller ça au public. Mais il faut pas non plus... c'est pas le loup dans la forêt qui vous attend pour vous croquer. Je pense que c'est un dialogue permanent, un équilibre, et c'est plutôt bien s'il y a un peu de mécénat qui... Voilà, et parfois de mécénat en nature, en soutien concret, enfin voilà.
Même si c'est pas, pour toutes les raisons que vous avez citées, évident peut-être de se projeter à moyen ou long terme, et même si, comme vous l'avez dit, le principe du festival aussi est toujours un peu travailler dans la continuité, de prendre des artistes qui se sont déjà produits et de les faire revenir les années suivantes, vous avez des envies d'orientation, d'aiguillage sur la...
Absolument.
Pour les éditions futures.
Oui, parce qu'il y a des choses qu'on amorce là, on organise cette table ronde pour la première fois au festival autour justement de cette notion des territoires de la création, en partenariat avec la revue Mouvement, le 21 juillet à Gap. Et on essaye là de dire, finalement, on peut aussi, puisqu'on considère, c'est mon cas, que la musique est un geste signifiant, on va le dire comme ça, c'est pas simplement un plaisir du soir et on passe un bon moment, c'est aussi quelque chose qui dit un rapport au monde. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement fort dans la musique, c'est comme dans le théâtre, d'une manière, dans la poésie. Bon. À ce moment-là, peut-être on peut accompagner un événement d'un regard qui soit pas forcément un regard musicologique d'ailleurs, qui soit celui d'un philosophe, celui de quelqu'un qui est écologue, qui va réfléchir sur la notion d'écosystème, comment un créateur se place dans un environnement culturel, avec des gens qui animent un territoire sur le plan du développement local. Enfin, comment voilà, on peut réfléchir collectivement, et c'est cette manière-là pour moi de rattraper un public en disant attention, là il y a peut-être la possibilité de faire sens collectivement, et pas simplement dire vous aimez pas. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Enfin, quand la question de j'aime pas est une question totalement secondaire, à mon sens. C'est est-ce que vous avez été pris par quelque chose, est-ce que vous êtes senti concerné? Souvent, la musique qu'on écoute pour la première fois, une création, vous déstabilise. C'est normal. Ça prend du temps. Et puis, moi, je dis souvent aux élus de ce territoire-là, qui ne sont pas du tout des techniciens de la culture, mais je leur dis, moi, j'ai mis 15 ans avant de comprendre qu'un paysage de montagne se lisait comme une partition. Enfin, voilà, au début, je pensais que c'était la nature, quoi. On regarde un paysage, c'est la nature. Et de la même manière, je pense qu'il faut du temps pour apprendre à écouter un quatuor à cordes, pour apprendre à percevoir qu'est-ce qui s'y joue vraiment intimement et pour être concerné. Donc nous, on essaye de dire que ce n'est pas juste, on pose des jolis gestes le soir pour détendre les gens après leur balade dans la journée, mais c'est un moment d'échange, de rencontre, d'intériorité parfois, de choses plus festives d'autres fois, mais qui chaque fois concerne la question de la dimension de l'identité intime des gens en relation avec celle des autres, un Palestinien, pourquoi pas, un musicien savant, un improvisateur, un jazzman, quel type de liberté ils engagent, voilà, dans la musique. C'est intéressant pour les gens. Et au-delà, encore une fois, du fait de dire j'ai beaucoup aimé ça ou j'ai pas aimé, ça c'est personnel. Mais après, en quoi ça me concerne intimement et qu'est-ce que ça peut bouger dans la manière dont je me représente moi-même dans la cité, enfin dans la vie, tout simplement.
Bien, donc ces belles rencontres, elles auront lieu donc du 19 juillet au 12 août, à Chaillol, aussi à Gap, à la Bativieille, à la Motte au Champsaur et dans d'autres villages, villes et lieux-dits, donc pour cette 16e édition du Festival de Chaillol. Merci Michael Dian.
Merci Marc.
Grand Dieu, que la semaine est longue quand on n'a pas vu ses amours. Et moi qui n'ai pas vu les miennes, mon tendre cœur est tout en pleurs. Ô montagne, que tu es haute, tu m'empêches de voir le jour. Tu m'empêches de voir ma brune, notre amant. Thank you.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.